de ressembler, car tu es notre modèle parfait. Et lorsque nous traversons des moments de joie, mais aussi des moments d'épreuve, nous voulons fixer nos regards vers toi pour mieux t'imiter, pour mieux te ressembler, pour être des bons disciples. Seigneur, ce matin, nous voulons encore partager ta parole, que tu puisses vraiment nous inspirer et que cette parole qui a aussi transformé Odette puisse aussi nous changer, nous façonner selon ton image. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Enfin, bonjour, non. J'ai déjà dit bonjour tout à l'heure.
C'est une habitude. Quand je commence une prédication, je dis toujours bonjour à tous. Vous savez, ce matin, j'aimerais partager avec vous les psaumes. Est-ce que vous aimez les psaumes? Oui. Dans le cadre de ma lecture quotidienne, je lis toujours une partie du Nouveau Testament et puis un livre dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et puis un psaume, et puis un verset aussi dans Proverbes. Je suis en fait la lecture de la Bible pour un an. Et à chaque jour, quand je lis les psaumes, c'est vraiment merveilleux parce que c'est un livre incroyable, incroyable, plein de richesses. Et on pourrait creuser tellement de choses dans ces psaumes. Et parce que Dieu nous parle, parce que la parole est vivante. Alors, en lisant ces psaumes, j'ai remarqué deux choses. Tout d'abord, je me suis dit, ces psaumes que nous connaissons sont écrits en hébreu de manière poétique. Et c'est vrai que c'est difficile de transmettre les ambiguïtés poétiques à travers une autre langue. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de traduire, un poème français en une autre langue. C'est difficile, parce qu'il y a quand même les rimes, les parallélismes, il y a beaucoup de choses, les sons qui sont un peu... Enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est assez difficile. Et non seulement il faut bien sûr traduire les mots, mais aussi transmettre la culture de ce pays-là. Donc c'est vrai que la traduction des psaumes pose parfois des défis, en raison en tout cas de richesse de leurs métaphores, mais aussi de leur symbolique profonde. Par exemple, le psaume 137, connu sous le nom de psaume de l'exil, cela exprime par exemple la douleur. Je ne sais pas si j'ai mis le psaume 137. Est-ce qu'il y a? Non? Essaye, vas-y. Premier diapo. Voilà. Comment comprendre le psaume 137, par exemple? Si nous connaissons un petit peu l'histoire des Hébreux, c'est difficile à comprendre. Enfin, si on ne connaît pas, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se conseille aux nouveaux chrétiens toujours de lire tout d'abord le Nouveau Testament au lieu de l'Ancien. Parce que si on ne connaît pas vraiment l'histoire des Hébreux, c'est difficile à comprendre. En tout cas, dans ce psaume, la traduction de ce psaume nécessite de saisir la profondeur de la nostalgie et du chagrin exprimé par les exilés. Vous savez, ici, les Hébreux sont exilés dans les différentes diasporas. Et dans ce verset, le psalmiste est en train de crier en disant que, il y a le verset qui dit « Auprès des fleuves du Babylone, nous étions assis et nous pleurions et nous souvenant de Sion ». Donc là, en étant exilé, ils pleurent parce qu'ils sont maintenant à Babylone, ils ne sont plus à Jérusalem. Et là, ils pleurent d'être esclaves, ils pleurent d'être loin, très loin du temple de Dieu. Et au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. C'est assez poétique. Quand on entend ça, est-ce que vous comprenez ça? Au sol, donc l'arbre, hein, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Vous savez, cela symbolise le fait que les Israélites étaient si accablés par leur exil à Babylone qu'ils n'avaient plus le cœur à jouer de la musique. En fait, c'est ça. Et aussi à chanter, comme aujourd'hui, ce matin, que nous avons fait, à chanter des chants de joie. Et donc, c'est une expression pour une manière de souligner, en tout cas, dans leur désolation et aussi leur nostalgie profonde pour leur patrie perdue. Sion qui représente le lieu de rencontre avec le Seigneur, et maintenant ils sont tellement de loin de Sion, là où il y avait justement le temple de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Ouais. En tout cas, la première remarque que je me suis dit, c'est quand même difficile de comprendre les psaumes. Bien sûr, ça nous parle aussi. Hein. Il y a des psaumes qui sont tellement merveilleux. L'Éternel est mon berger, par exemple, le psaume 23, ça nous parle vraiment beaucoup, en connaissant aussi l'histoire de David. Mais il faut quand même étudier pour comprendre davantage. Et puis, si on regarde un petit peu les psaumes, il y a deux types de psaumes. Tout d'abord, les psaumes de louange et de reconnaissance. Alors, pourquoi je vous ai préparé le PowerPoint? La semaine dernière, on m'a dit que c'était mieux pour mieux comprendre ma prédication. Donc, j'ai fait l'effort de... Vous savez qu'en général, je ne fais pas les PowerPoint. Ce n'est pas mon truc. Mais bon, j'ai fait quand même les efforts pour que... Surtout ce matin, je vais vous parler des psaumes, ce qui est un peu compliqué. Alors, les psaumes, c'est vrai qu'il y a deux types de psaumes. D'abord, le premier type, c'est le psaume de louange et de reconnaissance, mais aussi le deuxième type, c'est le psaume de lamentation et de supplication. Tout d'abord, les psaumes de louange et de reconnaissance, en fait, ces psaumes célèbrent la grandeur de Dieu, exprimant la gratitude, la joie, comme nous venons de faire ce matin. Nous avons vraiment loué, chanté le Seigneur avec beaucoup de joie, de reconnaissance. Et nous voyons souvent ça dans les psaumes. Et puis l'autre type de psaumes que nous pouvons voir, ce sont des psaumes de lamentation et de supplication, où justement les psalmistes expriment la douleur, la détresse, les épreuves, les supplications, etc. Et souvent, c'est pas seulement juste exprimer leur douleur, mais aussi c'est un appel à l'aide. Seigneur, aide-moi, je vis en ce moment un moment super difficile, aide-moi. Et ils expriment ça par des prières pour la délivrance et aussi par des demandes de supplication. Voilà, donc d'autres types de psaumes qui existent. Voilà, parmi, si on trie en tout cas les 150 psaumes. Et puis, deuxième remarque que je me suis dit, c'est, comme je vous avais dit, hein, les psaumes sont tellement riches. Quand on creuse davantage, quand on étudie encore davantage, il y a tellement de messages que Dieu aimerait nous transmettre. Et Dieu communique de manière vraiment personnelle avec ceux qui cherchent sa parole. Tout à l'heure, nous avons entendu le témoignage d'Odette qui disait que vraiment c'est la parole qui l'a transformé. Et de même, en lisant les psaumes, en lisant la parole de Dieu, nous pouvons être complètement transformés. Dieu répond de manière spécifique lorsque nous attendons à lui. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Oui, hein? Quand on s'attend à lui, Dieu nous parle. Quand nous désirons le rencontrer, par exemple comme ce matin, si vous avez vraiment ce désir ardent pour entendre la parole de Dieu, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Incroyable. Dieu nous parle. On ne le voit pas, mais Dieu nous parle à travers sa parole, à travers les prédications. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, un certain Geoffrey, oui, qui était passé ici. C'était, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, maintenant il est allé au nord de la Lorraine. Et donc ce Geoffrey, un agnostique au début, est venu à un culte. Et puis, il m'a dit à la fin du culte, « Pasteur, oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous me connaissiez ?»« Non. Ce que vous avez dit correspondait exactement à ce que je vivais. » C'est ce qu'il avait dit. Enfin, en grosso modo, hein, c'est... Et il disait que voilà, ça lui avait vraiment beaucoup parlé. Effectivement, la parole de Dieu est vraiment incroyable. Même si on ne connaît pas la situation des personnes, la parole peut transmettre les messages que nous avons besoin. Nous avons besoin. Et par la suite, Geoffrey a pu suivre, enfin, a pu venir chaque dimanche. Chaque dimanche, c'était la période du Covid. Donc, on n'était pas très nombreux, on était une bonne trentaine. Mais lui, il venait régulièrement. Ah, il neige. Incroyable. Oui, la grâce de Dieu aussi, hein, descend aussi sur nous ce matin, comme cette neige. Oui, et puis cette grâce qui nous inonde, bah, a inondé aussi la vie de Geoffrey. Et il a été complètement noyé par cette grâce. Il a pu suivre le parcours Alpha. Il a pu vraiment dire oui, Seigneur. Au début, il était un agnostique. C'est quoi un agnostique? Bah, il croit un certain Dieu, mais il ne connaît pas vraiment qui est ce Dieu. Et là, il était convaincu que c'était Jésus, le vrai Dieu. Dieu le Père, le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il a pu vraiment donner sa vie et être baptisé. Pas chez nous, mais quand, une fois qu'il est, il est monté là-haut. Voilà, donc, je vous ai un petit peu voilà. J'ai perdu mon fil de... à cause de la neige. Alors, j'aimerais aussi partager une autre expérience. Un frère était dans une situation, il devait prendre une décision assez importante et il ne savait pas si c'était vraiment une bonne décision. À ce moment-là, il ouvre la Bible, comme d'habitude, et puis il fait sa lecture quotidienne et il tombe sur le psaume 125 et, qui dit, cantique des degrés, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion ». Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tentent pas les mains vers l'iniquité. C'est un peu difficile au départ, mais lui, il avait vraiment reçu une parole. Tout d'abord, en lisant le premier verset, il se dit... Moi, je dois prendre une grande décision. Je ne savais pas comment faire. Est-ce que je dois vraiment aller sur ce chemin-là ou je dois même peut-être investir dans d'autres projets? Et là, Dieu nous parle. Dieu lui a parlé en disant « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Il n'est pas ébranlé. » Et donc, il a tout de suite compris qu'il y avait une certaine métaphore assez puissante. Pour parler de l'importance d'avoir une grande confiance en Dieu. Et puis ici, la montagne Sion est un symbole de stabilité et de force. Elle représente la sécurité et la pérennité. De la même manière, ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel sont comparés à cette montagne solide qui ne vacille pas dans leur foi, mais demeure ferme et constant, quelles que soient les circonstances. Et cette parole l'avait rassuré. Il s'est dit, oui, maintenant, je vais plus faire confiance à toi, Seigneur, avant de faire prendre une décision. Et c'est comme ça que voilà, Dieu lui avait donné la paix, la conviction que c'était la bonne voie. Et il n'était plus vacillant, il n'était plus hésitant. Et puis, en lisant le verset 2, il s'est dit, waouh, c'est super, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oui, il s'est dit, oui, la montagne de Sion est symbole enfin, où justement le temple de Jérusalem était situé. Donc, important de considérer, enfin, ce verset-là, pour lui, c'était un verset qui lui disait, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais t'entourer, je vais te protéger, je vais te protéger de tout mal. Je suis là. Seigneur, nous parle encore ce matin. Je suis là, ne t'inquiète pas. Comme ces montagnes qui entourent Jérusalem, je vais t'entourer de toute attaque spirituelle, de toute attaque qui peuvent nous faire tomber. Non, Jésus est là. Dieu est là pour nous protéger. Et ça l'avait vraiment beaucoup rassuré. Puis le troisième verset, quand il a encore continué la lecture, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Alors le sceptre de la méchanceté désigne ici le pouvoir ou l'autorité exercée par les méchants. Tout ça pour opprimer ou causer du tort aux autres. Donc il y a des méchants. Il y a des gens qui ont un certain pouvoir pour nous faire du mal, ou encore un certain force spirituelle aussi qui peuvent nous terrasser. Cependant, dans ce verset, il dit, cela ne durera pas indéfiniment. Oui, il traversait à ce moment-là des épreuves, mais il avait compris que cette épreuve, ça ne durera pas éternellement. Dieu intervient pour mettre fin à cette injustice, afin que les justes ne soient pas entraînés à suivre le même chemin de méchanceté par vengeance. C'est pour ça qu'il dit, afin que les justes ne tentent pas les mains vers l'iniquité. Les justes, ceux qui font confiance en Dieu, après avoir été attaqués, ils peuvent rendre l'appareil. Et c'est pour ça que Dieu est en train de dire non, non. Il ne faut pas se venger. Nous ne sommes pas des juges. C'est Dieu qui se vengera. Qui ? C'est Dieu qui va intervenir. Dieu est aussi là pour te protéger. Pour te protéger. Dieu protège, oui, l'intégrité morale des justes, mais aussi, il préserve du mal. Voilà. Un exemple où, en tout cas, les psaumes peuvent nous parler personnellement. Ça vous est arrivé déjà de que le Seigneur parle à travers le psaume ? Oui ? En fait, c'est pas encore. Enfin, on n'est pas encore arrivé au chapitre d'aujourd'hui. Je vais encore parler de psaume 91. La difficulté de la traduction, c'est que il y a aussi une certaine parallélisme, mais bon, je pense que j'ai l'impression quand même que le contenu est bien traduit en français, du coup on peut vraiment bien comprendre. Je donne un petit exemple, 91.1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu nous invite ici à demeurer sous l'abri du Très-Haut, et vous qui reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Donc on a un peu une certaine parallélisme entre le Très-Haut, enfin en tout cas l'abri du Très-Haut et l'ombre du Tout-Puissant. On pourrait même changer, interchanger. On pourrait dire même, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant repose sous l'abri du Très-Haut, n'est-ce pas ? On peut échanger. Donc dans cette poésie, les parallélismes peuvent servir à renforcer un thème. Donc en fait, il y a une certaine répétition de la même idée à travers plusieurs différentes phrases pour renforcer en tout cas l'idée clé que Dieu veut nous transmettre. Le psaume 91, ben, en fait, voilà, hein, ça nous donne en tout cas cette sensation que oui, Dieu demeure. Est près de nous et il protège, un Dieu protecteur. Et donc, nous devrions être sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà ce que je voulais dire. Euh, Peut-être un autre exemple, psaume 33. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. En tout cas, nous sommes ici tous invités à devenir des personnes qui craignent Dieu. Mais comment pouvons-nous craindre Dieu? La réponse est donnée ici. Ce sont ceux qui espèrent en sa bonté. Si on vous dit, c'est quoi? Enfin, qui sont ceux qui espèrent en l'Éternel? En fait, ici, il explique que ceux qui espèrent en l'Éternel sont ceux qui craignent Dieu. Vous voyez? Les psaumes permettent en tout cas de mieux comprendre la portée des phrases de Dieu, en ce qui concerne Dieu. Alors, maintenant, j'aimerais vous inviter à lire dans psaume 131, qui est le chapitre d'aujourd'hui que nous allons voir assez rapidement. Est-ce que vous êtes prêts à lire tous ensemble?
Ok.
On va lire tous ensemble. Allez, on commence. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, ah, c'est très court, il n'y a que 3 versets. Je me dis, ben voilà, un chapitre 131 qui est assez court, bon, ça vaut quand même la peine de traduire directement de l'hébreu en français. Alors, j'ai essayé de traduire, et voici donc ma version que j'ai pu traduire parce que c'était assez court. Donc, au lieu. Voilà. Donc, Éternel, mon cœur ne s'enfle pas. En fait, ne s'orgueille pas. Ne s'enorgueille pas. Mes yeux ne sont pas hautains. En fait, en hébreu, est écrit mes yeux, pas hautains. Mais en français, il faut traduire mes yeux ne sont pas hautains. Et je ne suis pas allé vers des choses assez grandes pour moi. Donc, alors que l'autre version, c'est « je ne m'occupe pas de choses trop grandes ». En fait, en hébreu, c'est « aller, marcher vers ». C'est ça en fait. Je ne suis pas allé, je n'ai pas marché vers des choses assez grandes pour moi, ni vers des choses hors du commun. Hors du commun, qui peut être aussi extraordinaire, merveilleuse, pour moi. Certes, enfin là, il y a marqué loin de là, certes, on peut dire mais, etc. Mon âme n'est pas écrasée, aplanie, mais elle est tranquille. En français, on la traduit par « j'ai l'âme calme et tranquille ». Je pense que le contenu est bien traduit, mais... la version originale nous invite encore mieux à comprendre que l'âme n'est pas écrasée. Non, elle est tranquille. Elle est tranquille. Comme un enfant sevré près de sa mère. En fait, comme un enfant sevré au-dessus de sa mère. Vous voyez là, la photo, hein? C'est pas un bébé, puisque c'est un enfant sevré. Hein? C'est pas un bébé, mais c'est un enfant qui est dans les bras de sa maman. Dans les bras de sa maman. Et puis, c'est comparé aussi avec mon âme. Mon âme est comme un enfant sevré. C'est ça, en fait, la version littérale en hébreu. Verset 3, c'est « Attends-toi, Israël !» Ou on peut dire « Israël, attends-toi. »« Attends-toi à l'Éternel dès maintenant et pour l'éternité. » Voilà un petit peu... la traduction littérale qu'on peut faire. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est avec la traduction littérale et la traduction française, on arrive quand même à mieux comprendre ce que Dieu veut nous transmettre. Et là, il y a beaucoup de parallélisme. Tout d'abord, il commence par un parallélisme en disant que « je n'ai ni un cœur orgueilleux, ni des regards hautains ». Autre version, mon cœur ne s'enfle pas, ne s'orgueille pas, mes yeux ne sont pas hautains. On peut même changer de sujet en disant mon cœur orgueilleux par mon cœur hautain. Mes yeux hautains peut transformer par mes yeux orgueilleux. Donc ici, David met l'accent pour dire que nous ne devons pas être dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Surtout devant le Seigneur. C'est juste une introduction. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Là, j'ai traduit par je ne suis pas allé, je ne marche pas vers des choses assez grandes pour moi, ni vers des choses hors du commun pour moi. Alors, si je résume le verset 1, on peut dire comme ça, Éternel, je regarde mon cœur humble, je garde mon cœur humble, mes yeux, je garde aussi mes yeux modestes, je ne m'engage pas dans des projets démesurés ou ambitieux. Cette attitude implique que je n'entreprends pas des tâches au-delà de mes capacités ou au-delà de ma motivation par orgueil personnel. Vous avez compris ? Alors, juste en lisant le verset 1, on pourrait se dire, mais cela signifie qu'il ne faut pas entreprendre des grands projets. Mais non, cela ne signifie pas que je dois entreprendre des grands projets. Ou ne pas faire d'efforts pour m'améliorer ou atteindre des objectifs. Au contraire, je crois en la possibilité de réaliser des grandes choses grâce à ma foi, grâce à Dieu. Par exemple, Jésus a dit un jour, lorsque un père est venu amener son fils possédé d'un esprit muet, et d'ailleurs l'esprit l'avait jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Et là, le père vient avec un esprit abattu vers Jésus en disant « Seigneur Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et Jésus répond « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Donc ça veut dire qu'on peut projeter des choses assez grandioses. Est-ce que c'est contradictoire ? En fait, lorsque nous regardons le psaume 131, qui est écrit par David, le grand roi, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'on doit, bien sûr, entreprendre des choses avec le Seigneur. Mais si on le fait avec cupidité, avec l'orgueil personnel, là, ça ne vaut pas la peine. Et d'ailleurs, si nous regardons la vie de David, c'est David qui a écrit ce psaume. David qui était un grand roi, David qui a réalisé tellement de choses, de grandioses. Et là, il dit, oui, tout ce qu'il a pu faire, c'est grâce à Dieu. Il faut s'humilier. Et je pense qu'à travers ses erreurs, il avait compris l'importance de l'humilité devant le Seigneur. Lui-même, il avait connu plein de péchés. Vous savez, hein, l'histoire de Bathsheba, hein, on sait ça. À cause de la convoitise, ou encore le meurtre de son mari Uri, ou encore le dénombrement du peuple, parce qu'il voulait montrer sa force, il pensait être fort, et comme il voulait savoir combien de force il avait, il a fait compter le nombre des personnes qui étaient capables de prendre les armes. C'était un péché aux yeux du Seigneur, parce que cela voulait dire qu'il voulait faire confiance davantage à ses propres forces que Dieu. Alors que Dieu est là, Dieu est présent, Dieu était toujours présent à ses côtés. Ce qui est une grande force chez David, c'est que une fois qu'il a compris qu'il avait commis des erreurs, il s'est agenouillé tout de suite, à chaque fois, il s'est repenti. Et après cette repentance, il avait compris l'importance de l'humilité devant le Seigneur. Nous ne devons rien entreprendre par notre propre convoitise, mais que tout doit se faire avec l'aide du Seigneur. Amen. Verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Autre version, certes, mon âme n'est pas écrasée, mais elle est tranquille, comme un enfant sevré auprès, au-dessus de sa maman. Mon âme est comme un enfant sevré. Est-ce que vous voyez en hébreu? Il y a beaucoup de ressemblances là, hein? Presque les mêmes mots, sauf le dernier mot. Alors, sachez que c'est de droite à gauche qu'on lit. Hein? C'est pas de droite à. C'est pas de gauche à droite. Hein? C'est de droite à gauche qu'on lit. Et si on lit ça, c'est Kegamul alai imo. Kegamul alai nafshi. C'est assez. On voit le rime qui est là. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme un enfant sevré. Comme un enfant sevré. Au-dessus de sa maman. Comme un enfant sevré, au-dessus de mon âme. En fait, c'est ça. Exactement, littéralement. Mais que j'ai traduit par comme un enfant sevré, près de sa maman, et comme un enfant sevré, mon âme y est. Mon âme est comme un enfant sevré. Donc, vous avez compris un petit peu, littéralement. Ça donne plus de sens, l'importance. Il y a cette image où l'enfant est dans les bras de sa maman. Et ça, c'est l'enfant et nous, Dieu et la maman. C'est bizarre, non? En général, on appelle Dieu le Père. Et ici, c'est maman qui est représentée Dieu. On voit l'image maternelle. Souvent, oui, Dieu est... Et à cette image paternelle, il est fort, il est puissant, il est, et puis il est pas macho, mais il a cette force masculine qui est là. Mais ici, on voit la douceur de la maman qui est présente. Dieu est représenté, voilà, comme une maman qui prend soin de son bébé, de son enfant, avec tendresse. Avec compassion, avec douceur, avec amour. Et c'est de la même manière que Dieu prend soin de nous. Amen. Oui, on voit bien que cette confiance est comparable à celle d'un enfant qui se sent en sécurité et comblé près de sa maman et loin de toute peur ou anxiété. C'est vrai qu'un enfant qui est dans les bras de sa maman n'a plus peur. On peut avoir certaines amertumes, mais cette amertume, on peut déverser auprès de sa maman. On peut pleurer dans les bras de sa maman. On peut vraiment tout remettre ça. On se sent en sécurité. Non? Pas vous? Bon, je suis assez grand pour être dans les bras de ma maman maintenant. Mais je sais que quand j'étais petit, voilà, j'étais souvent dans les bras de ma maman, hein, en train de chercher la sécurité, la protection. Et Dieu est là, comme ça aussi, avec cette présence un peu féminine, pour nous, avec douceur, pour nous conduire. Verset 3. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alors moi j'ai traduit « espère en l'Éternel », mais « dès maintenant et à jamais ». Voilà l'espérance en l'Éternel. Cette espérance ne doit pas être juste un petit moment, mais jusqu'à l'éternité. On ne doit pas avoir cette espérance juste le moment où nous sommes ce matin à l'église. Mais jusqu'à l'éternité. Est-ce que nous avons cette persévérance dans notre foi? Cette idée est bien aussi exprimée, le psaume 131, dans Romains 12. que j'aimerais vous lire. Dans Romains 12, verset 3, il est dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Ça vous parle, verset 1, n'est-ce pas ? « Mais de revêtir des sentiments modestes. » Encore verset 1. « Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Puis verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu nous invite vraiment aussi à rechercher cette volonté de Dieu. Volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En ayant cette espérance en Dieu. En Dieu. Et j'aimerais encore vous lire aussi dans Hébreux 12, il est dit, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Oui, avoir un regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez cet effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Espère en l'Éternel veut dire aussi regardez sur Jésus qui a souffert à la croix. Espère en l'Éternel. J'aimerais conclure. Le psaume 131 est un appel à abandonner toute prétention et à se reposer entièrement sur Dieu, comme un enfant qui se repose en toute confiance auprès de sa maman. Ce psaume nous invite vraiment à adopter une attitude de dépendance confiante envers Dieu, en s'éloignant complètement de l'orgueil, de l'ambition démesurée. Et en nous encourageant en tout cas à trouver notre repos en Dieu, le psaume 131 nous rappelle la paix, la sécurité qui découle de notre relation avec notre Créateur. Que cette parole nous encourage, que nous puissions vraiment aussi nous rappeler cette douceur, cette compassion que Dieu aussi veut. Voilà, nous étendre, que vraiment qu'on soit sous sa protection. Amen. Je vous invite à la prière.